pyramidale de la croyance, affirmation des principes réticulaires et théorie du complot. Donc cette réflexion se décompose en deux parties. Une première partie où il s'agira essentiellement d'établir les modalités de développement de cette crise de croyance, et une deuxième partie qui sera centrée sur les liens entre le soupçon qui affecte les principaux médias et cette fameuse théorie du complot, partie où je reviendrai sur le déroulement de la discussion à propos du référendum sur la Constitution européenne. Alors, donc, concernant, bon, première partie, donc, concernant cette crise de croyance, je m'intéresse en fait à un aspect de la question, non pas tellement le pôle de l'émission, c'est-à-dire cette soi-disant manipulation d'opinion par les médias, mais plutôt le pôle de la réception, l'omniprésence du soupçon dans cette réception, sentiment qui me semble préalable à la dénonciation des médias, qui est en fait en réalité son socle. Alors, sur l'existence de cette crise, je ne veux pas m'étendre très longtemps. On dispose maintenant, alors, depuis 15 ans, d'enquêtes annuelles entreprises par Télérama et La Croix, qui posent chaque année, en gros, la question suivante. Les événements sont-ils déroulés tels que les médias les rapportent? On peut discuter, bien sûr, des sondages, des échantillons, mais la tendance, quand même, est très claire. Ça fait une bonne dizaine d'années que on flirte avec la barre des 50%, que maintenant on est descendu sous les 50%, c'est-à-dire plus de la moitié de la population française affirme ne pas croire la manière dont les médias restituent les événements. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'une grande majorité de la population considère que les médias manipulent. Mais alors le processus est très clair, c'est que ce sont toujours les autres qui sont manipulés, c'est jamais soi-même. On cherche tous évidemment à faire partie de l'élite non manipulée. Mais plus de la moitié de la population considère que les autres sont manipulés. Enfin, bon, c'est un paradoxe parmi d'autres. Alors, c'est donc cette condition sceptique largement partagée qui donne toute sa virulence au décryptage des partis pris, supposés partis pris des médias. Et la crise de croyance qui affecte ces médias, les médias de masse, et notamment la télévision, qui est le principal d'entre eux, se nourrit aussi de la théorie du complot. Cela étant dit, le désamour spécifique à l'égard de la télévision possède aussi des causes spécifiques, historiques, qui ne sont pas totalement réductibles aux soupçons. Et en gros, je dirais que quatre processus convergent pour constituer les modalités principales de cette crise. Le premier, c'est l'affaiblissement de la valeur réaliste de la télévision. Le deuxième, c'est le cycle de naturalisation technologique de l'image. Troisième, c'est l'affirmation de l'image numérique simulée comme preuve véridique. Alors ça, c'est un petit peu de mon jargon, j'ai hâte d'expliquer dans ce qui va suivre. Et enfin, le quatrième processus, c'est la proximité avec le rejet des élites, dont il sera surtout question dans la deuxième partie de mon propos. Alors donc, première composante, l'affaiblissement de la valeur réaliste de la télévision. De quoi s'agit-il? Bon, je dirais que le creuset technoculturel de la croyance exige toujours un déplacement de l'événement à travers un média, sur un support, vers un support, déplacement qui n'altère pas trop cet événement. Il faut qu'à la limite, le transport se rende invisible, semblant venir inscrire l'événement tel quel, sur les supports que nous consultons. Ainsi sera préservé le sentiment qu'événements et informations sont une et même chose et qu'on peut passer donc dans les deux sens de l'un vers l'autre. Tendance historique à l'identification entre événements et informations, se conjugue avec une autre tendance historique, pour aller vite, apparue à la Renaissance, visant à construire des représentations toujours plus proches de notre réalité vécue, de notre réalité environnante. Alors, je citerai, pour aller très vite, ça a commencé avec la perspective, ça s'est prolongé quelques siècles ensuite avec la photographie, donc perspective parce qu'il s'agit avec la perspective de représenter le monde tel qu'on le voit, hein, et non plus tel que des vidéos ou des données culturelles commandent de la représenter, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Donc la vision devient le, le principe de construction de la présentation. Ensuite, avec la photographie, une technologie qui nous donne une image exacte, mais une image immobile, le cinéma viendra l'animer. Ensuite, la sonorisation augmentera le caractère incarné de cette représentation, puisque maintenant il n'est pas simplement visible et animé, mais il est aussi audible. Et cette lignée donc se développera, on en trouve des traces très claires avec les grands écrans panoramiques qui visent aussi à l'immersion. Donc, la lignée audiovisuelle d'augmentation de l'incarnation, c'est-à-dire dans la présentation, trouvera des limites au XXe siècle, limites qui tiennent au fait que notre réalité environnante n'est pas simplement audiovisuelle. Elle est aussi expérimentable, c'est-à-dire que ce stylo, je peux le prendre, le toucher, tester sa solidité. Sur cet axe-là, l'audiovisuel, évidemment, trouve des limites indépassables. Ce seront donc d'autres types de technologies de représentation autour de l'informatique, c'est-à-dire l'image numérique simulée interactive, qui viendra fabriquer des représentations expérimentables et qui permettra que ces représentations ne soient plus délimitées par le fait que, bon, on sait que toute représentation audiovisuelle est toujours une représentation du passé. Donc la limite représentation du passé sautera avec l'image numérique, avec la simulation numérique, puisque dès lors, ces représentations seront perpétuellement rejouables. Donc, dans cette trajectoire, la représentation est devenue toujours plus corporellement incarnée jusqu'à la sensation physique, apparue dans les jeux vidéo il y a déjà une quinzaine d'années, avec les systèmes de retour d'effort, où on ressent physiquement le recul d'une arme ou le fait qu'un véhicule passe dans un trou, ressort les chocs. Bon, enfin, tout ceci est maintenant très connu. Donc cette exigence d'incarnation, qui est la condition d'une pleine expérimentation, la télévision ne peut évidemment l'assurer, limitée par deux données fondamentales, sa forme pyramidale, qui interdit le retour de la réception sur l'émission, et puis sa nature audiovisuelle, comme j'essaie d'expliquer il y a quelques instants. Donc à l'heure où le coefficient corporel augmente dans la communication à distance, on pourrait montrer comment au récit écrit du 19e siècle, à l'image commentée transmise en direct du 20e, le fameux reportage télé direct, se substitue progressivement dans ce 20e siècle débutant d'autres formules de croyance basées sur des médiations et des types de transport singuliers d'événements, médiations qui allient un engagement par modèle interposé et une absence de risque direct. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on pourrait dire, pour conclure ce premier point, que la formule de croyance, disons approximative de la télévision, c'est-à-dire je crois parce que je vois, est substituée par une autre formule, je crois parce que je peux expérimenter. Donc deuxième point maintenant, le cycle de la naturalisation technologique de l'image. Dans les années, lorsque la télévision est apparue dans les années 45-50, son indice de crédibilité était extrêmement fort. Il y avait quelques enquêtes qui avaient été faites à l'époque. 95-98% des spectateurs affirmaient que les images diffusées étaient adéquates aux événements que ces images représentaient. Avec le direct, cette accréditation a encore augmenté. Il y a une première phase d'installation, où là, le coefficient d'adhésion est très très fort, une sorte de climax. Et à partir de ce moment-là, la télévision va, à partir des années, disons, la fin des années 60, les événements politiques de ces années-là ont joué un certain rôle, mais je pense que c'est d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre, qui sont des dynamiques plus technoculturelles que directement politiques. À partir de la fin des années 60, et surtout dans les années 70, on a commencé à mettre en cause le caractère objectif du reportage direct télévisuel pour s'intéresser à son aspect subjectif, qui prend les images, avec quel angle, qui sélectionne qu'est-ce qui va passer à l'écran, et la soi-disant objectivité qui était la donnée principale de la période d'installation a été de plus en plus questionnée pour nourrir ce soupçon qui maintenant est évidemment très largement installé. Alors, je crois qu'on met la suspicion à l'égard des images au compte, peut la mettre au compte de la facilité du trucage qu'offre le numérique, mais je crois que ce serait fausse route, puisque les techniques d'enregistrement, depuis l'invention de la photographie, ont partie liée avec le trucage. Ce qui est remarquable et nouveau, je crois, dans la crise de légitimité de l'audiovisuel, et de la télévision en particulier, c'est pas tant l'accumulation des scandales sur lesquels on met souvent l'accès, les fausses images de la première guerre du Golfe, la fausse interview de Fidel Castro par Pearl Harbor, par exemple, mais c'est plutôt que le doute généralisé, maintenant, accompagne toute image enregistrée. Et ce doute est révélateur d'une séparation croissante entre le voir et le croire. La méfiance, il me semble, n'est pas le produit de la tromperie, c'est plutôt l'inverse. La méfiance est débusquée aujourd'hui parce que... est débusquée aujourd'hui parce que l'état de méfiance nous habite désormais. Je crois d'ailleurs que sur ce point-là, on pourrait généraliser le propos. La crise fiduciaire des médias de masse, je dis fiduciaire au sens de la perte de confiance dans la monnaie, là il s'agit de perte de confiance dans la monnaie du visible, cette crise fiduciaire est une composante du discrédit des élites en général, j'y reviendrai tout à l'heure. Conformément à la logique qui porte ombrage aux médias de masse, la désaffection à l'égard des élites politiques en particulier suit la même logique, c'est-à-dire que c'est plus une conséquence des ratés de la démocratie représentative qu'une cause. On met souvent le doigt sur les scandales politico-financiers, considérant que ce serait la raison majeure du crédit de la démocratie représentative. Je crois qu'en réalité, c'est l'inverse. Ces scandales ont toujours eu lieu, par exemple sous la Troisième République. Ils étaient encore bien plus immoraux, des tas d'hommes politiques qui se mettaient des sommes d'argent très très importantes dans les poches, et ça ne mettait pas en cause la légitimité du système de la représentation, de la représentativité politique, enfin de la représentation politique traditionnelle. Alors que maintenant, n'importe quel scandale est dénoncé par les médias, les trois pouvoirs ne sont plus réunis.